Amen. Vous voyez la puissance des mots, hein, les paroles, souvent, eh bien, la manière dont nous exprimons les choses. Et je dirais que on voit bien que la langue, eh bien, peut nous poser beaucoup d'énormes problèmes dans la vie. Et ce que nous disons aujourd'hui, eh bien, bien souvent, nous le vivons demain. Il nous faut prendre la responsabilité de ce que nous disons. C'est une responsabilité. La Bible nous dit que tout ce que nous demandons, tout ce que vous demanderez en mon nom, eh bien, je le ferai. Et bien souvent, on est là confronté parce qu'on se dit pourquoi ça marche pas. Hein, parce que lorsqu'on est réuni dans l'église, on prie et on demande des choses, mais dès qu'on sort de l'église, eh bien, on a tendance à se plaindre, à ronchonner, à dire eh bien, l'inverse de ce que nous avons demandé dans la prière. Et c'est pour ça que c'est pas exaucé. Hein. Il faut. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 3, verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » De la même bouche. Hein. Alors, nous devons veiller, hein, veiller à nos paroles, hein, nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche, nous devons veiller aussi à nos pensées, parce que nous devons eh bien, transformer ces pensées qui nous viennent dans notre vie et les mettre en harmonie avec la pensée de Dieu. Hein, nous devons rejeter eh bien, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces pensées aussi qui ne sont pas agréées par la parole. Hein, toutes ces pensées qui nous viennent et nous devons, par, je dirais, cet esprit de transformation, eh bien, tendre, rechercher à vivre la pensée de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est tout un cheminement, c'est le cheminement de chacune de nos vies. Des fois, nous n'y arrivons pas parce que les pensées eh bien, viennent dans notre esprit et elles ne sont pas à la gloire de Dieu, mais notre désir, eh bien, c'est de continuer cette démarche, de pouvoir véritablement transformer ses pensées. Et un jour, eh bien, vous verrez que Dieu va faire son travail, le Saint-Esprit va faire son travail, et vous serez en harmonie je dirais, avec le Seigneur. Vous savez, le langage de Dieu, c'est la louange, c'est l'adoration. Et bien souvent, nos pensées, eh bien, c'est le langage de l'ennemi. C'est l'esprit du monde, c'est cet esprit souvent rationnel qui nous empêche eh bien, d'être en communion avec la pensée de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit eh bien, que les pensées de l'homme sont éloignées hein, de la pensée de Dieu. Donc, notre désir à chacun, c'est de tendre, hein, d'aller vers eh bien, la pensée de Dieu et de veiller, bien sûr, à ce qui sort de notre bouche, de veiller à nos paroles parce que nos paroles prennent vie, hein, parce que nos paroles eh bien, nous amènent bien souvent à retarder le processus de la bénédiction de Dieu. Nos paroles, eh bien, nous, ce que nous disons de notre bouche, eh bien souvent, nous amènent à voir les plans de Dieu venir bien plus tard, hein, repousser le temps de Dieu. Pensez au peuple d'Israël qui devait traverser eh bien, le Jourdan. Il fallait 11 jours simplement pour aller vers la terre promise et ils ont mis 40 ans. Hein, 40 années au lieu de 11 jours parce que ils ont retardé ce processus de la bénédiction de Dieu parce qu'ils étaient eh bien dans leur plainte, dans leur murmure, dans leur ronchonnement, hein, et la plainte est une attitude bien souvent qui sort du cœur et nous devons veiller à cette plainte, hein, nous devons analyser ce qui sort de notre cœur. Je dirais que dans l'épreuve, eh bien, il y a toujours un trésor. Et au lieu lieu de se plaindre d'une manière négative, au lieu d'être là à mugir, au lieu d'être là à ranchonner, eh bien nous devons, dans les moments difficiles, chercher le trésor se cache chercher eh bien, cette épreuve afin que nous puissions la surmonter, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions eh bien, aller dans sortir de ce désert. C'est facile de chanter dans les montagnes quand tout va bien, mais c'est difficile de faire la même chose dans le désert quand tout va mal. Et pourtant, on voit que ce peuple a vu la bénédiction de Dieu, a vu les miracles de Dieu. N'oubliez pas que Dieu les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, de 400 années d'esclavage. Il les a fait sortir pour les amener, pour les conduire dans la terre promise. Et ce peuple a vu des bénédictions, une multitude de bénédictions. Dieu lui-même s'est impliqué pour les délivrer, et ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu eh bien, comment l'ange de la mort venait et tuait les premiers-nés et que eux, en tant que peuple juif, en tant que peuple de Dieu, eh bien, ils étaient épargnés. Ils ont vu eh bien, la mer se transformer. Ils ont vu beaucoup de miracles et de prodiges. Et pourtant, vous voyez, ça ne les a pas empêchés par la suite eh bien, de se plaindre. La plainte, c'est souvent, je dirais, vous savez, il faut veiller parce que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui passent beaucoup de temps à se plaindre. Il y a des gens qui se plaignent 25% de la journée, ils sont là en train de trouver des sujets. Et il y a toujours des sujets à se plaindre. Ça, c'est pas au bon endroit. Ça, c'est pas comme ça que ça devrait être. Il y a toujours dans la journée des situations qui auraient tendance à nous amener, à nous conduire à ouvrir notre bouche et à nous plaindre de ce que nous voyons, de ce que nous pensons, mais il y a encore ceux eh bien, qui sont là à se plaindre la moitié de la journée, ils sont là toujours en train de se plaindre, et ils sont là toujours en train de voir ce qui ne va pas, ils sont là en train de regarder toujours le verre à moitié vide et jamais le verre à moitié plein. Vous savez, la plainte, les gens qui se plaignent, eh bien, ce sont des gens qui manquent de gratitude, ce sont des gens qui ne connaissent pas la gratitude, parce que s'ils réfléchissaient un petit peu, eh bien, ils verraient qu'ils sont bénis. Et nous qui faisons partie du peuple de Dieu, on voit bien que la bénédiction est dans notre vie. On voit bien que Dieu veille sur nous. On voit bien que Dieu eh bien, nous apporte la nourriture. On voit bien que Dieu nous ouvre des portes. On voit bien, malgré les difficultés, on sait que Dieu est derrière et que nous n'avons rien à craindre. Malgré quelquefois eh bien, les moments difficiles que nous passons dans l'existence, eh bien, nous savons que l'ange de l'Éternel et campe autour de ceux qui le craignent. Il nous entoure, il est là. Et donc, le fait de nous plaindre sans arrêt, eh bien, nous montre cette ingratitude, parce qu'on devrait être, au contraire, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devrions être sans arrêt, sans cesse, en train de louer les bienfaits de Dieu. Nous devrions être, chacun de nous, en train de nous réjouir eh bien, des merveilles de la parole de Dieu. Nous devrions être, nous, le peuple de Dieu, le peuple le plus heureux sur la terre. Et la gratitude, eh bien, c'est de reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie et non pas d'être là à nous plaindre eh bien, de tout ce qui ne va pas, de tout ce que nous voyons, de tout ce qui cloche, et d'être sans cesse dans cette ingratitude. Les Israélites ont quitté eh bien, l'Égypte et ils ont vu tous les miracles de Dieu. Il y avait des miracles qui étaient incroyables, des miracles qui étaient tellement grands. On peut se poser la question, mais comment, au travers de ce voyage, eh bien, ils ont pu autant se plaindre. Ils ont pu, à chaque fois, eh bien, être là en train de s'énerver, de se mettre en colère contre Dieu, alors que Dieu avait un plan pour eux. Pensez bien que si Dieu les avait sortis eh bien, de l'esclavage, c'était pour les conduire à la terre terre promise. Il avait un but. Il leur avait dit ce but. Il avait dit, mon but, c'est de vous conduire dans une terre promise. Hein, je vous donnerai cette terre de Canaan. Et le peuple a vu la puissance, a vu les miracles. Et malgré cela, eh bien, ils ont été un peuple de la rébellion, de la plainte, de la colère. Alors que Dieu avait un plan, hein, Dieu ne les envoyait pas à l'abattoir lorsqu'il les a sortis de l'esclavage, hein, mais il leur a demandé, eh bien, de le suivre, de lui faire confiance. Est-ce que tu fais finalement confiance à Dieu? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que finalement tu vis pas ta vie simplement au travers, eh bien, de tes propres efforts, de tes propres pensées, de tes propres capacités, et finalement tu vois tes échecs, mais tes échecs ne sont pas les échecs de Dieu, parce que Dieu ne connaît pas l'échec, il ne connaît que la victoire, il ne connaît que le succès. Alors ne t'appuie pas sur tes échecs ou sur tes doutes, mais appuie-toi, eh bien, sur la victoire de Dieu. Et on voit au travers, eh bien, de ce périple dans le livre de l'Exode, eh bien, on voit le livre de l'Exode, c'est intéressant de voir la parole de Dieu. Hein, et on regarde dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, verset 2. Alors, chapitre 15, pardon. Et le verset 24. Et le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Hein ? Le peuple murmura. Voilà, le peuple murmure. Le peuple se plaint. Pendant le voyage, il se plaint. Vous savez, quand on va dans une autre ville et qu'on arrive dans un hôtel, souvent, on s'aperçoit que dans cet hôtel, eh bien, soit l'eau est froide, soit eh bien, il manque quelque chose dans le frigidaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se plaint. On se plaint. On aime bien se plaindre. On aime bien murmurer. Alors là, eh bien, le peuple était dans le désert et commençait à se plaindre. Il commençait à murmurer contre Moïse. Hein, le peuple murmura contre Moïse. Vous voyez, on aime bien. On a besoin d'un bouc émissaire. On a besoin de quelqu'un pour se plaindre. Si ça ne va pas, c'est à cause de Moïse. Hein, et Moïse, tu as fait des choses qui étaient belles, mais maintenant, eh bien, tu es plus bon. Hein, maintenant, tu vois, tu nous amènes, on ne sait pas où, tu nous amènes devant un mur et on va se taper la tête contre le mur. Donc, c'était l'attitude. Hein, au lieu d'être dans la louange, au lieu d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude de Dieu, parce que Dieu les avait libérés de l'esclavage, parce que Pharaon avait cédé et qu'il a laissé le peuple de Dieu partir, parce que les chaînes, eh bien, de l'esclavage, parce que les chaînes de la dépendance, eh bien, étaient tombées. Vous savez, quand vous avez tous ces mauvais esprits qui sont là et qui vous tiennent ficelés, hein, qui vous tiennent captifs, et que Dieu, eh bien, vous délivre de toutes ces mauvaises puissances, eh bien, vous devez être dans la gratitude, remercier Dieu. Merci Seigneur parce que j'étais, eh bien, captif. Merci Seigneur parce que j'étais prisonnier par mes pensées, parce que j'étais prisonnier par mes propres yeux, eh bien, et tu m'as délivré. Au lieu de se réjouir, eh bien, ils étaient là en train de murmurer. Allez, le lendemain, on commence, ça va pas, hein, il y a toujours, et puis on est toujours là à regarder, eh bien, le voisin, à se comparer aux autres. Pourquoi, eh bien, les autres réussissent? Pourquoi les autres arrivent? Pourquoi ça marche dans les autres églises et pas ici? Pourquoi? Pourquoi? On a toujours le regard, un regard critique, un regard, eh bien, de plainte, au lieu d'être dans la louange et dans l'adoration, au lieu de rechercher, eh bien, la gloire de Dieu dans notre vie. Hein. Vous savez, la plainte, c'est la langue de l'ennemi, c'est la langue, eh bien, du diable, parce que c'est là où il agit, parce que vous lui donnez la possibilité d'agir dans votre vie. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, verset 3, eh bien, les enfants d'Israël leur dirent, « Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Vous imaginez un petit peu? Ils ont vu des miracles extraordinaires et ils étaient là en train de se plaindre, en train de dire « Maintenant, on a faim. » Ah oui, vous avez le test. Hein? Est-ce que vous pensez que Dieu les aurait laissés mourir de faim dans le désert? Non. Mais il a fallu qu'ils passent par une épreuve. Cette épreuve, c'était qu'ils commençaient à avoir faim. Vous savez, quand vous avez l'estomac qui vous tiraille, eh bien, vous voulez de suite avoir de la nourriture. Et Dieu, eh bien, les a laissés patienter un petit peu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils se sont mis à murmurer, à dire « Maintenant, on a faim !» Alors, on avait soif, maintenant, on est en train de crever de faim. Hein, et là, ils étaient en train de murmurer contre Dieu. Hein, ils étaient là en train de se plaindre en disant « Mais finalement, Dieu, tu aurais mieux fait de nous laisser en Égypte sous l'esclavage plutôt que d'être libre. » Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui disent peut-être, eh bien, finalement, c'est mieux que quand avant j'étais mieux quand j'étais dans le monde et que je faisais toutes les erreurs et toutes les bêtises de la terre, plutôt et que j'étais comme les autres, hein, c'était mieux que maintenant que je suis enfant de Dieu, hein, parce que maintenant, eh bien, j'ai l'impression de pas avoir ce que les autres ont. Donc, vous voyez. Qu'est-ce que tu as fait alors qu'avant, eh bien, j'étais tranquille, je pouvais faire ce que je voulais. Je voulais vivre en concubinage, je pouvais faire me droguer, je pouvais faire tout ce que j'avais envie. Hein, j'étais dans le monde, j'étais dans le péché. Hein, mais aujourd'hui, eh bien, tu m'amènes à vivre autre chose et ça ne me convient pas. Vous voyez la parole de Dieu, le peuple est trouvé alors que Dieu avait agi. Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et si on continue comme ça, on va s'apercevoir eh bien, que Dieu leur a donné la manne, Dieu leur a donné eh bien, cette manne qui venait tous les jours et qui descendait tous les jours, et c'était un festin qui pouvait se faire. Mais malgré ça, eh bien, ils étaient là en train de murmurer. Et je crois que c'est important de comprendre, de faire ce qu'il faut en dépit de ce que nous ressentons. Faire ce qu'il faut en dépit de ce que nous ressentons. Des fois, hein, on a de la colère. Des fois, on est énervé. Hein, mais on sait que ce n'est pas bien. Au fond de nous, on sait que ce n'est pas bien. On sait que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. On sait que Dieu n'aime pas la colère. Dieu n'aime pas... Des fois, on aurait envie eh bien, de crier, de dire eh bien, toute notre insatisfaction. Mais faites attention, il faut faire ce qu'il faut en dépit de ce qu'on ressent, parce qu'on sait que ce qu'on ressent, eh bien, bien souvent nous aveugle et nous empêche d'aller dans la pensée de Dieu. Bien souvent, nous avons une mauvaise attitude quand nous nous laissons eh bien, diriger par nos émotions, par nos aveuglements, par nos propres pensées. Eh bien, nous agissons, nous sommes conduits par l'esprit du malin et Dieu nous invite à faire ce que nous devons faire. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la faveur de Dieu. Nous sommes eh bien, les enfants que Dieu a sortis de l'esclavage pour nous conduire eh bien, dans une terre promise. Et nous devons veiller à sa parole. Et on doit tous se poser cette question ou passer par ce test, apprendre à faire ce qu'il faut. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je dis ce que je dois dire plutôt que de dire eh bien, mes émotions, de dire toute la colère que j'ai emmagasinée en moi? Hein, est-ce que ça fait du bien? Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais tu comprends, si tu es découragé, eh bien, tu as besoin de le dire aux personnes, tu as besoin de te confier, de parler de tes découragements. » Mais vous savez, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ces choses ne sont pas faciles à garder sur soi, mais est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que, eh bien, finalement, est-ce que ces découragements sont là? Et bien, bien souvent, vous le savez, ils sont là pendant un temps. Et puis, ces découragements, ils vont partir au bout d'un certain temps parce que vous ne leur avez pas donné vie, parce que vous n'avez pas été eh bien, celui qui allait en parler du matin jusqu'au soir. Il y a des gens comme ça qui parlent de leur découragement en permanence. Hein, mais vous donnez vie à ce que vous dites. Mais si la bonne attitude, eh bien, c'est de le garder. Effectivement, si nous voulons être en communion avec Dieu, si nous voulons être à l'image de Dieu, eh bien, nous devons garder ces paroles et les chasser de notre esprit afin de recevoir l'Esprit de Dieu et d'avoir des pensées qui sont saines, des pensées qui sont favorables. Parce que la parole de Dieu, elle nous dit à tout découragement, eh bien, prends courage, hein, je suis avec toi, je suis celui qui te conduirait, hein, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas aller. Dieu envoie l'ange de l'Éternel afin que nous nous relevions de tous nos découragements et que nous puissions aller de l'avant. C'est ça la parole de Dieu. Hein, la parole de Dieu, elle est là pour nous sortir, hein, de ces découragements, pour passer, vous savez, dans la difficulté, chercher le trésor. Et le trésor, c'est quoi? C'est de vous appuyer sur la parole de Dieu, parce que quand vous êtes dans le découragement, vous n'avez plus envie de rien faire, mais si vous appuyez sur la parole de Dieu, eh bien, vous allez passer ce cap qui est difficile peut-être dans votre vie. Vous allez passer cette période qui est difficile. On passe par des périodes difficiles, on passe par des déserts, mais on doit apprendre à passer des étapes, on doit apprendre à sauter les obstacles pour grandir spirituellement. Vous savez, le peuple de Dieu, ce n'est pas des miracles qu'il a besoin, parce que le peuple avait vécu beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église pour avoir des miracles. Mais vous savez, ce que le peuple avait besoin, c'était de la maturité spirituelle. C'est ça qui manque. Ce n'est pas les miracles qui manquent, c'est la maturité spirituelle. Parce que les gens n'étaient pas mûrs, parce que les gens, eh bien, se comportaient, ils attendaient toujours, eh bien, que Dieu fasse un miracle et après un autre miracle et un autre miracle. Mais ils ne faisaient aucun effort eux-mêmes. Ils se laissaient aller à leurs propres sentiments et ils n'étaient toujours pas contents. Jamais contents. Jamais ils étaient heureux de ce que Dieu faisait. Au lieu d'avoir un sentiment de gratitude, eh bien, ils étaient sans cesse dans l'ingratitude. Ils étaient sans cesse dans le murmure. Ils étaient sans cesse dans la plainte. Et ça ne portait rien de bon. Hein, et on regarde dans le livre des Nombres, vous verrez que le peuple de Dieu, alors qu'il a vécu tant de choses, eh bien, on se pose des questions. Hein, chapitre 21, verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous savez qu'est-ce que c'est que la misérable nourriture? C'est la manne de Dieu. C'est ce que Dieu envoyait tous les jours. Eh bien, ils étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés, eh bien, des prodiges de Dieu. Ils étaient dégoûtés des miracles de Dieu. Ils étaient là notre âme est dégoûtée. Alors que Dieu, eh bien, les accompagnait, alors que Dieu a envoyé une nuée, eh bien, pendant le jour pour les accompagner, et une nuée, eh bien, de feu pendant la nuit afin de leur donner chaud, afin de les conduire et de les garder pendant toute la nuit. Vous imaginez le peuple, hein, ce peuple qui murmurait sans cesse, ce peuple qui était là, ils étaient dégoûtés. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Et alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Voilà. À un moment donné, eh bien, le plan de Dieu va être retardé. À un moment donné, Dieu va agir. Dieu a tout fait ce qu'il pouvait. Et il était face à un peuple qui était têtu, un peuple, eh bien, qui avait le courroux. Un peuple qui restait toujours, eh bien, dans leur conviction, un peuple qui restait toujours dans leur aveuglement, des gens qui étaient toujours en train de se plaindre, jamais contents, des gens qui, au lieu de bénir, eh bien, étaient là en train de regarder, de murmurer, de ranchonner. Vous savez, on vit dans ce monde où les gens ranchonnent sans arrêt, se plaignent sans cesse, hein, et bien souvent, nous avons tendance nous-mêmes à ranchonner, à nous plaindre sur tous les petits détails de la vie, à nous focaliser disait, eh bien, sur tout ce qui ne va pas. Et on voit bien que cela, au bout d'un moment, n'amène rien, nous amène droit au mur, nous amène dans une situation qui ne nous permet pas d'avancer, d'évoluer. Hein, et on voit bien, eh bien, que si on sait que Dieu fait des choses formidables pour nous, on voit la main de Dieu dans notre vie, dans notre travail, dans nos études, dans tout ce que nous faisons, et pourtant, eh bien, on n'est pas content. On se plaint. Vous savez, la plainte, c'est un langage, hein, et ce langage, eh bien, bien souvent, il nous conduit dans la malédiction. Et c'est important, vous savez, c'est la parole. On va regarder dans le livre de Jacques, parce que le livre de Jacques nous montre bien le pouvoir de la parole de Dieu. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure est sans tache devant Dieu, notre Père. Hein ? On pourrait dire, eh bien, vous voyez, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, ça nous parle, hein ? Tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Dieu ne veut pas que dans nos pensées, on sait que dans le cœur, c'est l'âme, il y a les mauvaises pensées et il y a les bonnes pensées. Le but, c'est que nous soyons remplis que des bonnes pensées et que dans notre cœur, eh bien, toutes les mauvaises pensées s'évacuent, hein, sortent de notre cœur, afin que notre cœur soit pur. Et c'est pour ça que nous avons besoin, eh bien, de veiller à nos paroles. C'est pour ça que nous devons veiller à ce qui sort, hein, sans tenir sa langue en bride. Parce que si nous disons tout ce que nous pensons, eh bien, forcément, à un moment donné ou à un autre, nous allons sortir des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des pensées qui sont éloignées de la pensée de Dieu. Et Dieu nous invite à tenir, hein, notre langue en bride. Qu'est-ce que c'est tenir notre langue en bride ? Eh bien, c'est ce qu'on mettait sur... Vous savez, on mettait un appareil sur les chevaux, on leur ouvrait la bouche, et à l'intérieur, on leur mettait un fer, et ça permettait de tenir, eh bien, et de donner la direction aux chevaux sans qu'ils puissent rien dire. Hein, c'était un morse, donc on les maintenait, et s'ils avaient envie d'aller à gauche, eh bien, et qu'on voulait qu'ils aillent à droite, eh bien, ce fer leur rentrait dans la bouche, leur faisait mal, et ils étaient obligés d'aller dans la direction que vous leur demandiez. Hein, et on voit bien, eh bien, la puissance de la langue. Parce que cette langue-là, elle dirige toute notre vie. Imaginez un grand bateau énorme, hein, qui a plus de 3000 passagers et qui vont faire un périple. Eh bien, vous imaginez que ce bateau, simplement par un petit gouvernail, il va prendre la direction que vous lui donnez. Il en est de même dans nos vies. Notre langue est le gouvernail de notre vie. C'est de notre langue, eh bien, que nous donnons une direction à notre vie. Hein, nous allons, eh bien, dans le chemin de la vie où nous pouvons choisir le chemin de la mort. Hein, c'est là, eh bien, la direction que nous donnons. Et c'est pour ça que nous devons veiller à nos paroles. Nous devons aussi, je dirais, rentrer dans le plan que Dieu nous donne, apprendre à se discipliner, apprendre à veiller à ce que nous disons, ce que nous sortons de notre bouche. C'est une discipline. Vous savez, il y a des gens qui parlent, on dit à tort et à travers. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des gens, ils ne peuvent pas, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire des bêtises. Hein? Ou alors, il y a des gens qui aiment raconter, faire des histoires pour rien. Mais je n'ai pas envie, moi, qu'on me raconte des histoires. Je n'ai pas envie qu'on me dise des paroles qui sont mauvaises. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Je préfère rester dans mes pensées plutôt que de savoir ce que telle personne ou telle autre personne ou telle autre personne a dit, eh bien, à mon sujet ou face à telle ou telle situation, parce que ça va me perturber, parce que ça va me donner, eh bien, de choisir le mauvais plan, parce que si vous allez rentrer dedans, vous allez rentrer dans l'arbre de la situation, vous allez vous mettre en colère, vous allez vous énerver. Est-ce que une situation, je veux qu'elle s'empire ou je veux qu'elle s'améliore. Hein, je veux qu'elle s'améliore. C'est pour ça que je fais attention à ce qu'on me dit et je vous invite à veiller, à faire attention à ce que vos oreilles entendent. Hein, n'oubliez pas que nous devons être nourris par la parole de Dieu. Ce que nos oreilles entendent, ça doit être eh bien, tout ce que Dieu dit. Hein, Dieu nous parle et il nous parle au travers de sa parole. Et sa parole, elle est positive. Sa parole, elle nous donne d'être de plus en plus forts. Elle nous donne eh bien, d'être plus que vainqueurs. Alors n'écoutez pas toujours eh bien, les paroles négatives, ces paroles qui ont tendance à vous mettre le moral à plat de couture, hein, ces paroles qui vous détruisent. On n'en veut pas de ces paroles. Il faut les rejeter, il faut les chasser dans le nom de Jésus. Hein, rester dans la bonne attitude, parce que c'est facile de chavirer, c'est facile de tourner le gouvernail eh bien, d'un cran de l'autre côté. Hein, c'est facile parce que c'est en fonction eh bien, de ce que vous dites et en fonction de ce que vous entendez. Alors, nous devons veiller à cela. Et pour ça, il faut avoir la discipline, la maîtrise. Vous savez, la Bible, elle nous dit, eh bien, l'un des dons, c'est la maîtrise de soi. C'est savoir avoir la tête sur les épaules. Hein, ce n'est pas se laisser entraîner. Parce que, vous savez, les gens, et souvent à Marseille, on dit, les Marseillais, souvent, ils sont comme ça, c'est des concierges, ils parlent à tort et à travers. N'oubliez pas que ça ne sert à rien. D'ailleurs, Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un dit du mal de toi, ce n'est pas à toi de rentrer dans l'art de la personne, ce n'est pas à toi de te battre, c'est laisser la situation eh bien, dans les mains de Dieu parce que c'est lui qui va se venger, c'est lui qui va s'occuper de sa situation. Et si Dieu le fait, il fera certainement mieux que toi. Hein? Alors, et puis, à quoi ça sert? Vous savez, il faut bien savoir, on parle du pardon, on parle eh bien, de la parole de Dieu, mais soyez convaincus que si Dieu te dit, eh bien, il faut que tu sois dans une situation de pardon, c'est parce que tu te fais du mal à toi-même. Parce que quelqu'un eh bien, qui n'est pas dans cette situation, il porte eh bien, des chaînes sur ses épaules parce qu'il n'est pas délivré. Hein, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans cette situation. Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Dieu nous parle, bien sûr que ça règle des choses, mais c'est surtout pour soi. Est-ce que tu as envie eh bien, de porter un fardeau sur tes épaules toute ta vie? Eh bien, si tu n'as pas envie, alors il faut que tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu la mettes en application et tu verras eh bien, que Dieu va te délivrer. Mais ça te fait du bien à toi, sinon eh bien, tu portes un poids sur tes propres épaules et c'est un fardeau qui est très lourd à porter et qui t'empêche de rentrer dans le plan que Dieu a pour toi. Un plan personnel, parce que nous n'avons pas tous le même plan. Chacun a sa destinée et Dieu veut eh bien, que nous rentrions dans notre destinée. Notre destinée n'est pas la tienne, n'est pas la mienne, c'est une destinée eh bien, qui est individuelle. Et nous devons veiller à cela. Hein, et je dirais que cela nous apprend à rentrer dans. Alors bien sûr, on fait des erreurs. Bien sûr, à des moments, eh bien, peut-être que notre langue, on dit, elle a fourché. Hein, mais sachez que nous devons veiller. Nous devons veiller. C'est la marche du chrétien. Il faut grandir dans la vie. Il ne faut pas toujours rester, on dit à Marseille, des minots. Il faut grandir. Il faut aller au stade supérieur. Hein. Et quand vous comprenez eh bien, la parole, vous voyez vos erreurs et vous voulez tendre, dire, écoute, j'ai fait des erreurs. Je me suis fait avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Maintenant, stop. Il y en a marre de se faire avoir. Hein, maintenant, je vais marcher dans les voies de Dieu. Maintenant, je vais utiliser ce que Dieu me donne comme indication, comme discipline. Et si j'arrive à discipliner ma vie, eh bien, j'en sortirai bien plus fort, j'en sortirai bien plus mûr. Et j'aurai une âme eh bien, qui donne la gratitude à Dieu et qui n'est pas sans arrêt dans la médiocrité et qui ne se contente pas de la médiocrité. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la médiocrité parce qu'ils se souillent en permanence eh bien, dans la plainte, dans le murmure, dans le compromis au lieu d'être intègre à la parole de Dieu. Alors Jacques, on continue vers Jacques chapitre 1, verset 27, nous dit « La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Voilà le but. Le but, c'est que nous puissions être altruistes, penser aux autres, hein, aller avoir la pensée des autres. Quand tu penses aux autres, quand tu veux bénir les autres, tu te bénis toi-même. Hein, c'est le plan de Dieu. Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer que quand vous faites du bien à quelqu'un, eh bien, combien vous vous faites du bien à vous-même. Parce que en allant voir eh bien, l'orphelin et la veuve, c'est comme si que vous allez voir Dieu en lui-même. Et Dieu nous invite à penser aux autres, à avoir une pensée d'amour afin d'être rempli de l'amour de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pratique. Ce n'est pas avoir un livre dans son esprit et sortir des versets du matin jusqu'au soir et avoir une langue de vipère. Ce n'est pas avoir un cœur sec. Ce n'est pas être méchant dans son esprit. C'est être ouvert. C'est aimer. C'est être rempli de l'amour de Dieu. C'est avoir une main tendue pour son frère, sa sœur. C'est penser aux autres, avoir eh bien, la conscience. Tes problèmes sont mes problèmes. Et je ferai tout eh bien, pour que tu sortes de tes difficultés. Et en faisant cela, eh bien, vous grandissez. En faisant cela, vous changez d'étape. Si vous êtes focalisé que sur vous-même, vous serez toujours en train de vous plaindre. Vous serez toujours en train de ranchonner. Vous serez toujours en train de murmurer. Mais si vous vous focalisez sur les autres, eh bien, vous serez toujours en train de donner. Vous serez toujours en train d'apporter la parole d'encouragement. Vous serez toujours en train de relever eh bien, les personnes qui sont tombées. Et en faisant cela, vous vous ferez du bien à vous-même. Vous ferez du bien. Et c'est ce qui est important, hein, se faire du bien. Dans Jacques, au chapitre 3, verset 2, il est dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mot dans la bouche des dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le contrôle. On doit apprendre, on doit tendre à contrôler eh bien, nos pensées. On doit arriver à cela, parce que des fois, j'ai des pensées qui me viennent. Et puis, je sais qu'elles ne sont pas bien. L'Esprit de Dieu m'avertit, me dit, tu vois, je me mets en colère. Mais je sais que ce n'est pas bien. Et de suite après, eh bien, j'ai tendance à me mettre dans l'attitude de Dieu. J'ai tendance à me dire, non, mais tu vois, je ne vais pas faire ça. Du temps. Vous savez, quand vous êtes dans cette situation, prenez le temps. Vous savez que le Seigneur va agir, que Dieu va agir, le Saint-Esprit. Ne rentrez pas de suite. Hein. Vous savez, les impulsifs souvent font des erreurs parce qu'ils entendent quelque chose et de suite, allez, on va au téléphone, on va se mettre à s'énerver. Ah oui, tu m'as dit ça. Et on fait des histoires en plus finir. Laissez le Seigneur agir. Prenez du temps. Vous verrez que souvent, on fait des montagnes de quelque chose qui est insignifiant. Hein, et on empêche le processus de la bénédiction, on se dispute, on s'en veut pour des choses qui n'en valent pas la peine. Hein. Donc, on doit veiller. Veiller, la direction de nos vies est dirigée par la langue. Hein, et nous devons veiller à ce que, eh bien, ce que la langue nous dirige dans le bon chemin. C'est la langue. Hein. C'est pour ça que dire des choses, des gens souvent passent leur temps à téléphoner ou à discuter ou à parler des autres. Non, on doit apprendre. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour dire ce qui ne va pas. Moi, j'ai souvent du mal dans cette attitude parce que quand je parle d'un chrétien, jamais je critique. Je parle eh bien, des bienfaits de Dieu. Je ne suis pas là en train de voir les défauts des personnes. Je ne suis pas là en train... Est-ce que quand je parle de vous, je vois les défauts? Non, je peux vous regarder dans les yeux. Je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas, vos défauts, parce que Dieu va les transformer, parce qu'on a tous des défauts. Donc, ça ne m'intéresse même pas d'en parler. Moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est de voir les qualités de Dieu et qu'on puisse aller et qu'on puisse proclamer la parole de Dieu pour aller de l'avant ensemble, pour qu'on soit dans la même direction. Hein, à quoi ça sert de voir tous les défauts défaut des uns et des autres, ou de parler de ce qui n'a pas été fait, vouloir refaire le monde à sa manière. Non, les expériences, eh bien, nous permettent de grandir, les expériences nous permettent d'être plus forts, les expériences, eh bien, nous donnent. Nous devons tendre, apprendre. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent jamais apprendre, mais si, il faut être enseignable dans la vie. Apprendre à tenir sa parole, apprendre à tenir en bride sa langue, parce que nous savons eh bien, que ça a une puissance et que ça peut diluer, ça peut retarder eh bien, le processus de Dieu, ça peut empêcher la volonté de Dieu dans notre vie. Ça peut empêcher de nous donner d'aller dans la terre promise. Et je crois que l'Église eh bien, doit veiller à avoir beaucoup plus de sagesse afin de rentrer eh bien, dans le plan. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien Dieu veut bénir l'Église. C'est son désir, c'est son seul souhait, mais souvent, eh bien, nous empêchons le plan de Dieu par nos mots, par ce qui sort de notre bouche, et nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester. Donc nous devons apprendre à nous taire, apprendre à savoir, eh bien, à prendre la responsabilité de nos mots. Dieu nous considère comme des adultes et non pas comme des enfants. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, il est dit que c'est la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josué, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Josachim, fils de Joas, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécia, fils de Josué, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Je répondis, c'est Jérémie qui dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. Hein? Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Hein, vous voyez la parole de Dieu, elle est formidable. Hein. Moi, j'aimerais ce matin que ces paroles vous soient adressées. Parce que souvent, nous agissons comme Jérémie. « Ah, Seigneur, je suis un enfant, je vais à l'église, mais si on me demandait de parler, ben, je suis avec un enfant, enfin. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas d'expérience, moi. Qu'est-ce que j'aurais bien à dire ?» Hein, alors, on est là, tu n'as rien à dire. Pourtant, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu viens dans l'église et tu n'as rien à dire. C'est triste hein, d'être éduqué, de grandir dans les voies de Dieu et en finalité de dire, ben, je n'ai rien à dire. Hein, je ne suis qu'un enfant, moi. Bon, la bonne excuse, tu sais, je peux faire des bêtises, je ne suis qu'un enfant. C'est normal, je suis jeune. Hein, mais avec Dieu, et Jérémie était très jeune, hein, il était bien plus vieux que chacun de vous ici, et Dieu lui a dit, je t'établis eh bien, prophète des nations. Hein, mais Dieu savait aussi que ce qu'il allait dire. Il connaissait les paroles de Jérémie, qui était là en train de, qui allait se plaindre, etc. Et lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et voici, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est la parole de Dieu. Je mets mes paroles, les paroles de Dieu dans ta bouche. Je ne mets pas les paroles du diable, je ne mets pas les paroles de découragement, je ne mets pas les paroles de je ne sais pas, je ne mets pas les paroles mais je suis un enfant, je suis un bon à rien, je suis ceci, je suis cela. Je mets les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, elles sont là pour te fortifier, elles sont là pour te faire grandir, elles sont là pour te faire aller de l'avant, elles sont là pour te donner la victoire, elles sont là pour te bénir, elles sont là eh bien, pour faire de toi celui qui a la tête et non pas la queue. Hein, voilà la parole de Dieu, pourquoi elle t'est donnée. Elle t'est donnée pour faire de toi une reine, un roi, une princesse, un ambassadeur de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Et Dieu dit eh bien, qu'il te connaissait avant même que tu sois dans le sein, dans le ventre de ta mère. Alors, Dieu a donné des promesses à Jérémie, hein, et il y a dit, tu seras un prophète. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il était très jeune et pas sûr de lui, hein, bien, il a plutôt écouté l'autre voix, cette voix qui lui disait, ah, Seigneur, je ne sais même pas parler, je suis un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas ces choses-là. Ne dis pas « je suis un enfant ». Arrêtez de vous comporter comme des enfants. Arrêtez de vous dire que vous êtes que des enfants. En vous disant comme ça, vous n'assumerez jamais de responsabilité. En disant que vous êtes un enfant, eh bien, vous n'aurez jamais cette maturité spirituelle. Vous ne serez jamais mature dans la vie. Vous ne serez jamais des responsables. Vous serez toujours eh bien, des gens qui seront irresponsables. Est-ce que le peuple de Dieu est composé d'hommes et de femmes irresponsables, ou est-ce que nous sommes responsables eh bien, de ce que nous sommes? Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes responsables de ce que nous disons et de ce que nous sommes, et de ce que nous devenons. Alors, on doit veiller, hein, veiller à arrêter eh bien, ces pensées négatives qui viennent dans nos esprits, et je suis persuadé que vous avez plus d'une fois eu ses propres pensées. Mais non, je suis trop jeune. Pourquoi je vais faire ça? On va se moquer de moi. Si je fais des choses dans l'église, si je fais eh bien des choses qui changent, innovantes, ben les gens vont parler encore et vont dire des choses négatives sur mon sujet. Ça sert à rien, etc., etc., etc. Hein, et finalement, eh bien, on empêche les dieux, les rêves de se réaliser. On empêche eh bien ces rêves que Dieu a mis dans notre cœur et de pouvoir se réaliser, et on les retarde, on maudit notre avenir, hein. Ce que Dieu met dans notre cœur, il faut que nous puissions le réaliser. Ce que Dieu met comme projet, eh bien, nous devons le vivre, hein. C'est ça la parole de Dieu. Ce que vous dites, ce que Dieu a mis dans votre les graines que Dieu a plantées dans votre terre, eh bien, c'est pour que un jour vous les viviez, pour qu'un jour vous puissiez eh bien, prendre toute la possession de cela. Pensez bien, David était dans un champ, il gardait les brebis, et Dieu a envoyé son prophète, et il lui a dit, on lui a montré tous les fils de David, ils étaient forts, ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient brillants, et finalement, à chaque fois, l'Éternel lui disait, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et puis, à un moment donné, eh bien, il a été dans les champs, il a vu ce petit garçon qui était beau de visage, et le prophète l'a oint d'une huile sainte et lui a dit, tu seras le roi d'Israël. Hein? Et ça ne s'est pas passé de suite. Il a fallu attendre eh bien, des années. Peut-être que David, il aurait dit, mais ça ne se passera jamais. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que Dieu me dit? Il a une victoire contre le géant Goliath. Il pourrait dire alléluia maintenant. Eh bien, mon temps va arriver. Mais non. À ce moment-là, il y a la jalousie du roi. Hein, et il est obligé de s'exiler, de se faire passer pour fou. Mais à chaque fois. Mais il est resté confiant dans la parole de l'Éternel. Il n'a pas voulu se venger du roi lorsqu'il avait la possibilité de le tuer. Hein, alors que le roi le pourchassait pour le tuer. Non, il a laissé Dieu agir. Et à un moment donné, eh bien, il est devenu roi et le plan de Dieu s'est exaucé. Vous voyez, les mots négatifs peuvent arrêter les promesses de Dieu. Et souvent, nos propres paroles empêchent la puissance de Dieu de se manifester. C'est pour ça qu'on doit veiller. C'est pour ça qu'on doit faire attention à nos mots. C'est pour ça que Dieu dit, je remplirai ta bouche parce que je sais que tes paroles, elles sont trop négatives. Parce que je sais que ce que tu dis, eh bien, c'est souvent des paroles de découragement plutôt que des paroles d'encouragement. On a besoin d'être entouré par des gens qui nous encouragent et on n'a pas besoin d'être entouré par des gens qui nous découragent en permanence et qui sont là en train de nous empoisonner la vie. On a besoin d'être tiré vers le haut et on n'a pas besoin d'être tiré vers le bas. Hein, si quelqu'un essaie de te tirer vers le bas, eh bien, ne l'écoute pas, laisse-le dire ce qu'il veut, ferme tes oreilles. Toi, tu dois aller de l'avant, hein, tu dois passer par ces obstacles et voir la vérité. Et on voit eh bien, que Dieu a agi puissamment dans Jérémie. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Hein. On peut voir aussi. Et je me rappelle, parce que c'était une expérience que j'ai faite, moi, quand j'étais plus jeune, et ça me remonte à plusieurs années maintenant, et c'était la période où j'ai fini mes études, et mon désir, eh bien, c'était d'aller loin dans les études. Alors, j'avais ce désir, après le baccalauréat, de m'inscrire dans une grande école, hein, c'était HEC, donc c'était une grande école, et je savais que ce n'était pas possible, parce que il y avait des milliers de personnes qui voulaient s'inscrire dans cette école. Et c'était un examen, hein, d'entrée. Et je savais que ceux qui étaient pris n'avaient pas beaucoup. Eh bien, il fallait passer encore 2 ans. Et ensuite, pour pouvoir simplement rentrer en première année. On choisissait les meilleurs dossiers. On choisissait simplement les personnes qui avaient les notes les plus brillantes. Et je n'étais pas dans ce cas, j'avais de bonnes notes, mais je ne faisais pas partie de cette élite, hein, de personnes qui avaient eu leur bac avec mention très bien, hein, parce qu'il fallait au minimum cette mention très bien. Donc il fallait être en tête. Alors ce n'était pas possible, mais pourtant j'avais ça dans mon cœur. Alors bon, ben, et puis j'ai, vous voyez, j'ai pas murmuré, j'ai pas dit pourquoi, non, mais donc à un moment donné, j'ai passé un BTS, donc, et dans cette école, il y avait les professeurs de cette grande école, et comme j'étais bon dans cette école, eh bien, 2 ans après, on m'a dit, mais pourquoi tu rentres pas dans l'école supérieure de commerce? Alors j'ai dit, maintenant, tu peux rentrer par admission parallèle, hein, tu peux rentrer directement en première année, donc tu n'as pas besoin de faire tes 2 ans de prépa, tu rentres directement en première année. Comme c'était les mêmes profs qui faisaient passer les examens, eh bien, j'ai fait un entretien avec eux, ils connaissaient mes notes et je suis passé dans cette école. Vous voyez, j'ai pas été découragé, je ne me suis pas dit, j'avais ça dans le cœur, j'avais envie de le faire. Eh bien, je suis arrivé. Et si je suis arrivé, vous aussi, vous pouvez arriver. Hein, il ne faut pas arrêter de vous décourager, arrêter de vous mettre des choses. Vous savez, on se met toujours des problèmes qui... Oui, mais tu comprends, si je veux faire quelque chose, oui, mais il y en a qui sont meilleurs que moi, il y en a qui sont déjà là. C'est difficile d'y arriver. N'écoutez pas, c'est toujours difficile. Tout paraît difficile, mais si vous avez ça dans votre cœur, vous réussirez parce que Dieu est avec vous, parce que Dieu vous donnera la victoire. Et c'est ça la différence. C'est ça notre différence. Hein, c'est que nous devons avoir confiance en Dieu, avoir confiance en Dieu, hein, et ne pas laisser nos paroles. J'étais pas là parce que c'est pas dans ma nature d'être là en train de me plaindre, et j'étais pas là en train de me dire non, ça sera pas positif, ça sera pas possible, etc. Je me suis dit si ça se fait, ça se fait. Hein, si ça se fait pas, je vais pas en mourir. C'est pas grave, mais j'ai fait en sorte eh bien que ça se fasse, et ça s'est fait. Hein, et ça c'est important. Il faut pas se laisser enlacé par les paroles qui sortent de notre bouche, des paroles négatives. Il y a trop de gens qui disent « mais non, je n'y arriverai pas ». Moi, j'en connais plein, hein, qui ont dit qu'ils n'y arriveraient jamais. Ils ne sont jamais arrivés. Sur, je ne sais pas, 3 000, 4 000, on en prend 400. Donc, on n'y arrive pas. Hein. Ben, si tu le dis, ben, tu dis, j'y arrive pas. Tu n'y arriveras jamais. Mais si tu ne te laisses pas, si tu fais attention à ce que tu dis, si tu restes confiant, et puis voilà, si tu restes ouvert, eh bien, Dieu te donnera de réaliser tes rêves. Dans le premier chapitre, il y a un autre exemple aussi et qui est significatif, c'est l'ange de l'Éternel qui est apparu à un prêtre hein, qui s'appelait Zacharie. Alors qu'il priait dans le temple, et l'ange lui dit que sa femme Élisabeth allait avoir un bébé et qu'il aura pour nom Jean. Alors, Zacharie était très surpris hein, parce que sa femme et lui étaient très vieux. Et il dit à l'ange, êtes-vous sûr que ça va se passer comme cela? Et je crois que nous sommes très âgés, hein, pour moi comme ma femme, et cela me semble impossible. Réponse de Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Vous voyez, hein, dans ce passage, la puissance de la parole, les mots qui sortent. Parce que Dieu, il est l'alpha et l'oméga, il sait le présent, le futur et le passé. Et si Dieu annonce, et si Dieu envoie l'ange de l'Éternel, c'est pour annoncer une bonne nouvelle à Zacharie, eh bien, qu'est-ce que tu ferais? Tu acceptes cette bonne nouvelle. Merci Seigneur. Parce que tu m'as envoyé ton ange et je sais que tu m'as donné eh bien, d'avoir la joie d'avoir un fils et je me réjouis de cela. Mais non, la tête, le cerveau qui se met à fonctionner, mais je suis vieux. À mon âge, j'arriverai pas à avoir de relation. Et puis ma femme, elle est vieille, elle est âgée. Donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse un enfant tous les deux? Et il était tellement convaincu de ça que la première des choses eh bien, qu'il aurait faites en sortant du temple, c'était d'aller voir sa femme et d'aller voir ses amis, sa famille, et dire, tu sais, j'ai une vision. Hein. Il y a un ange qui est venu me parler. Et en fait, eh bien, l'ange, qu'est-ce qu'il a dit que... Mais je ne pense pas qu'il s'adressait à nous, il a dû parler de quelqu'un d'autre, peut-être, qu'il allait avoir un enfant. Parce que quand on est convaincu de quelque chose, eh bien, on ne va pas dire l'inverse. Hein. Il aurait commencé à dire, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Parce qu'il était convaincu de cela, et que ce n'était pas possible. Et c'est pour ça que Dieu eh bien, lui a dit, voici, tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, hein, qui s'accompliront en leur temps. Parce que tu n'as pas cru. Le fait de laisser Zacharie libre et de parler à tort et à travers, eh bien, qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme effet? Que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas. Parce que s'il avait été voir sa femme et qu'il lui aurait dit, eh bien, Élisabeth, ce n'est pas possible, hein, ça c'est des bêtises, elle aussi elle serait rentrée dans ce processus. Et puis son entourage aussi serait rentré dans ce processus. Et tout le monde aurait dit, mais ce n'est pas possible. Et ça aurait empêché la promesse de Dieu. C'est pour ça que l'ange de l'Éternel a coupé court à tous ces bavardages inutiles, à ces bavardages négatifs qui allaient empêcher sa promesse. Alors il a fermé la bouche de Zacharie afin que les choses s'accomplissent en leur temps. Hein? Et c'est ça qui est important. Vous savez, des fois, il faut savoir fermer les bouches. Les bouches, vous savez, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois vous dites des choses et vous empêchez la bénédiction de Dieu de venir dans votre vie. Combien de fois vous êtes là en train de parler à tort et à travers. Faites attention à ce que vous dites. Vous êtes capable eh bien, de donner des armes à l'adversaire. Vous êtes capable d'envoyer quelqu'un se faire tuer au combat parce que vous dites des paroles paroles qui sont des paroles qui amènent eh bien, des personnes à avoir une attitude, un comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Hein, faites attention à vos mots, faites attention à vos paroles, parce que vos paroles ont des conséquences. Et ces paroles négatives, eh bien, elles auraient stoppé sa destinée. Et c'est pour ça qu'on doit mettre un garde à notre bouche. En d'autres termes, faire attention à ce qui sort de votre bouche. Hein, je ne pense pas que mon état de santé s'améliore. Non, mais mettez un garde à votre bouche. Ne prophétisez pas la maladie. Ne dites pas je suis malade, je vais rester malade. Non, prophétisez eh bien, la santé. Je suis malade, oui, ok. Mais Dieu va agir. Dieu va me donner d'aller de mieux en mieux. Dieu va me sortir. Dieu va me permettre. Dieu est mon aide. Dieu est celui en qui eh bien, j'ai confiance. Dieu est celui qui me fait sortir des déserts. Dieu est mon soutien dans les difficultés. Dieu, appuyez-vous sur Dieu. Ne vous appuyez pas sur vous. Ne vous appuyez pas sur votre colère. Ne vous appuyez pas sur vos plaintes, parce que vos plaintes vous amènent nulle part. Mais appuyez-vous sur Dieu afin de sortir de vos déserts, afin de sortir et bien de tout ce qui vous enlace et qui vous empêche d'être libre, hein, parce que Dieu est le Dieu de la délivrance. Et ne dites pas ma carrière est foutue, je suis mort, hein, qu'est-ce que je vais faire. N'ayez pas de paroles de médiocrité, de défaite, hein, n'invitez pas toute la défaite, toutes les incertitudes qui se passent dans votre tête, parce que nous sommes tous dans des situations des fois où nous avons le doute. Des fois on ne sait pas qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que ceci. On a des doutes qui se passent dans la tête, mais ne leur donnez pas l'occasion de venir dans votre vie et d'agir et de vous mettre le moral à zéro. Ne leur donnez pas eh bien, le pouvoir d'interrompre la bénédiction de Dieu. Ayez confiance en Dieu, invoquez l'Éternel, dites-lui qu'il est avec vous, dites-lui, demandez-lui son aide. Seigneur, aide-moi dans cette situation, donne-moi eh bien, la puissance d'être victorieux, donne-moi de ne pas être là en train de regarder à toute la médiocrité de la terre et à penser que tout cela c'est pour moi, mais donne-moi de me réjouir eh bien, de tous les bienfaits de Dieu. Et je sais que les bienfaits de Dieu sont nombreux et se renouvellent chaque matin. C'est ça ce que vous devez eh bien, prêcher, c'est ça que vous devez sortir. Merci pour la faveur, je n'ai pas fait ce que je devais faire, je ne suis pas le meilleur des meilleurs, mais je suis ton enfant et je suis sous la faveur. Je suis sous la faveur de Dieu, je suis sous la bénédiction de Dieu. Je suis eh bien, quelqu'un qui est le chouchou de Dieu et je sais que tu me remplis de force et je sais que tu me restaures et je sais que tu me donnes la victoire. C'est ça la parole, hein, c'est inviter les bénédictions de Dieu dans votre vie, assurez-vous eh bien, d'envoyer ces bonnes bénédictions et ne vous remplissez pas d'invitations que vous faites sans cesse sur la médiocrité, sur la captivité, sur tout ce qui n'est pas... Dieu, vous savez, a mis une table devant nous et Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Il ne veut pas le pire. Hein, si vous voyez le pire, c'est qu'il faut changer de verre de lunettes parce que c'est que vous ne voyez pas dans la façon de Dieu. Dieu veut le meilleur pour ses enfants. Il veut eh bien, que nous soyons les plus forts. Quand j'ai commencé mon ministère, je vous l'ai dit, je n'étais pas sûr de moi au départ, hein, parce que ce n'est pas facile de remplacer au pied levé eh bien, un pasteur qui avait une grande expérience. Et moi, je n'avais pas eu à exercer un ministère pastoral avant. Alors, j'étais très nerveux hein, et pas sûr de moi. Et puis, vous savez, à ce moment-là, quand vous venez, qu'on vous dit, il faut que tu parles ce dimanche, les pensées négatives, elles te bombardent, hein, ton esprit. Hein, Bernard, tu ne vas pas savoir quoi dire, personne ne va t'écouter, pourquoi tu devrais faire cela, hein, tu laisses ça à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, et puis je ne suis pas expérimenté. C'est toutes ces questions qui viennent dans votre tête et vous ne pouvez pas les arrêter. Et tout au long de la journée, j'avais ces pensées hein, qui revenaient. Oui, mais C'est bien gentil tout ça, hein. Tu me dis qu'il faut que je parle, tu me dis qu'il faut que je prépare un message dimanche, mais attends, qui je suis moi pour annoncer, pourquoi et qu'est-ce que je vais pouvoir dire et est-ce que je peux dire des choses? Et puis regarde, moi aussi j'ai mes problèmes, hein, donc comment tu veux que je règle les problèmes des autres tant que je n'ai pas réglé mes propres problèmes? Donc vous voyez, on est là avec tous ces sentiments, mais à un moment donné, ça se traverse. Et puis à un moment donné, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as oint de ton Saint-Esprit. C'est toi qui as posé ta main sur moi. C'est toi qui as dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est toi qui as posé ta main sur mes lèvres et qui m'a rempli de ton Esprit Saint. C'est toi qui m'as dit, ne regarde pas à ce que les gens pensent, ne regarde pas à ce que les gens disent, ne te compare pas aux autres serviteurs, mais rentre dans le ministère que je t'ai donné parce que c'est moi qui te le donne. Et à ce moment-là, eh bien, j'avais cette parole de l'Esprit Saint qui m'encourageait, qui me permettait eh bien, d'aller dans l'arène et de pouvoir parler dans le nom de Jésus. Hein, et j'avais des frères et des sœurs dans l'église qui étaient là pour me réconforter, pour prier, pour me soutenir, pour me dire, va, nous sommes avec toi, nous sommes le peuple de Dieu. Nous savons que c'est toi que Dieu a oint pour diriger cette église. Et c'est réconfortant, vous savez, d'avoir des personnes qui vous encouragent, parce que ceux qui sont là pour vous détruire ne vous apporte rien, parce que ceux qui sont là pour être là en train de vous dire mi-figue, mi-raisin, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, ah il a fait une erreur, ah il a dit un mauvais numéro de verset, c'est pas eux qui vont vous tirer vers le haut, hein. Eux ils vont vous tirer vers le bas, hein, mais ceux qui sont là et qui ont l'onction de l'esprit, ceux qui ont la même vision, eh bien marchent sur le même chemin et nous grandissons ensemble et nous sommes eh bien dans le même bateau et nous atteignons eh bien, le bord. Voilà ce que la parole nous invite, hein, et nous devons le remercier pour ça. Il y a aussi notre histoire dans la Bible. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, hein, mais ce sont des histoires tellement belles et qui nous parlent du pouvoir de la parole. C'est dans le livre de Josué au chapitre 6. Et Jéricho était une ville fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'était une forteresse. Et l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et le 7e jour, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris de joie. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. » Voilà. Alors le problème, c'était que Jéricho était une ville entourée par d'énormes murailles, hein, des hauts murs de pierre très épais, et ils ne savaient pas comment eh bien, ils allaient entrer dans cette ville. Et Dieu leur a dit eh bien, de faire quelque chose qui paraissait étrange. Hein. Pendant 6 jours, ils devaient marcher autour de ces murs, une fois par jour, et le 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour de la ville. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu leur donna une instruction finale qui était la clé de tout le travail de son plan. Il a dit, alors que vous êtes en train de marcher autour des murs, je ne veux pas que vous disiez un mot, pas un murmure, pas de courte conversation, rien. Hein. Pendant que vous faites le tour de la ville, rien, nada, silence. Une fois par jour, hein, 6 jours, et puis le 7e jour, 7 fois le tour. Nada, tais-toi, bouche cousue. Mais pourquoi Dieu ne leur permettait pas de parler? Parce que Dieu savait très bien qu'après 1 ou 2 tours de marche, il dirait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? C'est ridicule. Qu'est-ce qu'on fait là? On joue aux chimpanzés, on fait quoi là? Hein? On tourne autour d'une ville. Hein, on tourne. Qu'est-ce que tu dirais ? Dieu nous prend pour des fous, des fadas à Marseille. On commencera à se plaindre. Et tu t'imagines un peu ? Ils sont sur des murs, là. Ils ont des arbalètes, ils peuvent nous tuer à n'importe quel moment. Je suis fou, moi, pour mettre ma vie en danger ? Et tu as vu, on ferait mieux d'aller ailleurs. Hein ? On ferait mieux de sortir de cela. Dieu savait qu'après un tour ou deux, eh bien, ils allaient commencer à parler, et ils allaient commencer à se plaindre, et ils allaient commencer à dire que c'était pas bien, et ils allaient arrêter, eh bien, ce que Dieu leur demandait. Il y en a qui auraient dit, je suis fatigué. Il y en a qui disent certainement, Josué, il n'a pas bien entendu ce que Dieu devait lui dire. Certainement, il a fait une erreur parce que Dieu, il ne peut pas dire des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Hein, c'est tellement surprenant. Quand Dieu dit des choses surprenantes, on ne veut pas l'écouter. Il faut que ça soit logique comme nous. On croit que Dieu, il est logique. Notre Dieu est le Dieu de l'illogisme. Dieu, il fait des choses impossibles à l'homme. Dieu n'a pas les pensées de l'homme. Les pensées de l'homme, eh bien, nous bloquent. Mais Dieu, lui, il voit d'une autre manière. Donc, il faut suivre la pensée de Dieu. Dieu, c'est le monde de l'incroyable. C'est le monde, eh bien, du fantastique. C'est le monde, eh bien, d'une autre dimension. Et nous devons élever nos pensées à quelque chose qui est surnaturel, à une dimension d'un autre niveau. Mais si nos yeux nous trompent, nos pensées nous trompent, et nous pensons que Dieu, il est moi. Il pense comme moi. Hein. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas escalader une muraille. Moi, je ne peux pas aller sur le mont Everest. Donc, eh bien, il est comme moi, Dieu. Il ne peut pas. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est moi. Hein. Alors, tourner autour d'une ville, à quoi cela ça rime. Et puis, je suis fatigué. Il fait chaud. J'ai faim, etc. Hein, Dieu savait que c'était impossible pour ces personnes. Eh bien, de voir le côté d'obéissance, d'écouter, d'être positif dans cette situation. Ça leur paraissait tellement loufoque, la situation, que, eh bien, ils avaient du mal. Ils avaient du mal. Et je crois que c'est des questions que nous devons nous poser à nous aussi. Des fois, Dieu veut faire des choses, mais on pense que c'est tellement inimaginable, eh bien, qu'on fait rien, qu'on se bute contre Dieu, hein, au lieu de se taire et d'obéir. D'obéir simplement. Hein, d'agir, de garder le silence. Hein, ne dites pas à tout le monde ce que vous pensez. N'êtes pas. Hein, y a des choses que je pense, et bien je les garde pour moi. Personne ne m'empêche de garder les choses. Pourquoi je vais dire des choses négatives ? Pourquoi je vais décourager ? Pourquoi je vais empêcher les choses ? Pourquoi ? Hein, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas un enfant de l'ennemi, je ne suis pas celui qui va décourager les gens, qui va les mettre à plat de couture. Je suis au contraire quelqu'un qui va aider quelqu'un à s'en sortir. Hein, n'oubliez pas que vous devez aider, que vous devez être altruiste, que vous devez penser aux autres plutôt que de penser à vous-même. Et souvent, comment le faire ? Eh bien, en gardant le silence, en vous taisant. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de formidable, parce que en tant que pasteur, les gens me disent pas. Souvent, ils se parlent entre eux, ils se disent des choses énormes, des critiques, des choses mauvaises. Ils se réjouissent souvent des ragots qu'ils entendent à droite, à gauche. Ils sont là, ils parlent pendant des trucs. Mais moi, ils viennent pas me voir parce que ils savent très bien que quand on vient me voir, je dis, ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Qu'est-ce que ça me fait? Je n'ai pas envie de me nourrir de ça. Je n'ai pas envie de ça. Donc, gardez-le pour vous, moi, tout ça. Mais de toute façon, ils ont honte. Pourquoi ils ont honte de venir me voir ? Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a la voix de l'Esprit Saint qui leur dit, vous vous trompez de chemin, vous vous trompez de voie. Hein ? Ce n'est pas comme ça. Ils le savent, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Mais en faisant ainsi, ils rentrent dans la voie ils rentrent dans du copinage avec le diable plutôt qu'avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein, on peut pas avoir deux maîtres. Et Dieu nous dit, hein, ce qu'il a dit aux Israélites, si vous ne pouvez pas dire quelque chose de positif, au moins, eh bien, soyez remplis de la foi. hein, de la parole de foi. Et des fois, quand vous êtes dans le doute, eh bien, mieux vaut rien dire plutôt que de dire des bêtises. Hein, mieux vaut rien dire plutôt que de dire des bêtises. Hein, ne laissez pas vos paroles négatives vous empêcher de rentrer dans le meilleur de la destinée, celle que Dieu a prévue pour vous. Et ça se travaille, hein, ça se travaille. Vous allez, c'est de la maturité spirituelle, hein, ça se travaille. Le chemin est long. Hein. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a dit la porte est étroite. Hein, il faut arriver à cela. Hein, il faut grandir. Même si je suis pas encore, eh bien, je vais m'atteler à travailler comme ça parce que je sais que c'est le chemin que je dois suivre, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Je dois travailler ma vie, travailler mes pensées, travailler eh bien ce qui sort de ma bouche, hein, et veiller à cela afin eh bien de rentrer dans ma promesse. Parce que le but, c'est quoi ? C'est de rentrer dans votre promesse, c'est de rentrer dans la destinée que Dieu a pour vous. C'est de ne pas stagner, c'est de ne pas dire, eh bien, ah oui, Dieu avait un plan merveilleux pour moi, mais écoute, maintenant, eh bien, j'ai 90 ans et je ne peux plus le faire. Hein. Donc vous allez vivre dans le remords, vous allez vous mordre les doigts, tout le reste de votre vie, parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire, parce que vous n'avez pas cru, parce que vous n'êtes pas rentré. Plus vous rentrez dans la destinée de Dieu, plus vous rentrez dans la bénédiction de Dieu, plus vous rentrez dans cette étape de Dieu, et plus vous allez aller loin, vous allez voir de grandes choses, de grandes bénédictions. Vous savez, la terre promise, il suffit de traverser le Jourdain, 11 jours, 40 ans ils ont mis. Hein. Il suffit eh bien, de faire un pas de foi et d'écouter ce que Dieu veut, et puis vous verrez des choses merveilleuses, vous verrez un paysage merveilleux. Quand ils ont été voir la terre promise, c'était eh bien, un endroit qui était fabuleux. Il y avait des arbres merveilleux, il y avait des rivières, il y avait de l'abondance, il y avait toutes les bénédictions de Dieu. Il faut franchir, vous allez rester tout le temps dans le stade de la maladie, tout le temps dans le stade de la pauvreté, tout le temps enchaîné avec ce caractère, cet aspect misérable, en train de vous plaindre, en train de ranchonner. Est-ce que c'est ça la vie que vous voulez avoir pour vous? Et si je vous faisais passer une vidéo et que je vous montre eh bien, ce que ça ferait de vous. Vous verriez eh bien, un homme qui, à 50 ans, commence à avoir les cheveux gris, qui commence à ne plus rire. Vous verrez quelqu'un qui n'est pas aimé, qui n'aime pas le monde, quelqu'un qui se méfie de tout le monde. Vous verrez eh bien, quelqu'un qui a le cœur sec. Et c'est ça ce que vous voulez devenir? Ou est-ce que vous voulez être un homme ou une femme épanouie? Un homme, une femme qui est heureux de vivre? Un homme, une femme qui remercie Dieu eh bien, de tous ses bienfaits? C'est les chemins que vous devez visionner. C'est ces voies-là. Est-ce que tu veux être cet homme-là ou cette femme-là, ou est-ce que tu veux être eh bien, cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu que Dieu a choisi afin qu'elle soit eh bien, dans la terre promise et non pas encore dans les déserts. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les déserts. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans le désert. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent aux murmures et qui n'ont pas ce caractère de reconnaissance, qui sont là tout le temps à se plaindre. Et il y a peu de gens finalement eh bien, qui sont remplis de la gratitude de Dieu et qui remercient Dieu eh bien, pour tout ce qu'ils vivent et qui ne font pas des montagnes eh bien, face à chaque obstacle de la vie. Mais au contraire, quand il y a un obstacle qui se présente, eh bien, ils se réjouissent parce qu'ils savent que le jour où ils arrivent à passer cet obstacle, eh bien, ils auront grandi, ils auront eu de la croissance au niveau de la maturité spirituelle. Il y a un autre passage aussi qui est magnifique et qui est dans le livre des Rois. C'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est un jour Élisée qui passait à Sunam et puis il y avait là une femme qui était une femme de distinction et qui le pressa de manger. Et puis, toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et pour lui, eh bien, c'était une joie. Et cette femme, elle a eu le désir eh bien, de faire une chambre spécialement réservé pour le prophète Élisée à chaque fois qu'il serait de passage dans la ville. Et puis Élisée, eh bien, il allait quand il passait dans cette ville et puis il se retirait dans sa chambre. Et puis un jour, il voulait remercier cette femme parce qu'il se disait, mais cette femme, elle est tellement brave, tellement gentille, j'ai rien demandé. Et à chaque fois, elle m'ouvre sa maison, elle m'ouvre son frigidaire, elle se coupe en mille pour me recevoir. Et il y a le serviteur d'Élisée qui lui dit, tu sais, cette femme, elle n'a pas d'enfant. Alors, il va voir cette femme et lui dit comme ça, écoute, si Élisée lui dit à cette époque, voilà, il lui dit, il l'appelle et puis il dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme, elle lui dit non, je ne pourrais pas avoir un enfant d'abord parce que je suis âgée et puis c'est pas la peine de me dire ça, moi si je te reçois c'est que ça me fait plaisir et elle lui dit mon mari et moi nous sommes heureux comme ça hein, donc ne me fais pas une promesse que tu ne pourras pas peut-être me tenir, hein, parce que, bon, ben, à nos âges, ce n'est pas possible. Son mari était un homme âgé. Et Élisée lui dit, non, il a prophétisé. Hein, et il lui a dit, eh bien, à cette époque, l'année prochaine, eh bien, tu auras un enfant. Et je dirais que, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans la tête de cette femme, elle est excitée, elle remercie Dieu, elle dit merci parce que c'était son rêve, parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant, elle était stérile, donc son mari était vieux, elle était heureuse, elle s'était habituée. Tu sais, on s'habitue à la vie qu'on mène. Pourquoi elle ne se plaignait pas, elle avait ce qu'elle voulait, mais là, eh bien, il y avait un rêve, et ce rêve, eh bien, c'était un rêve qui reprenait vie. Un rêve qui était mort dans sa tête. Il y a beaucoup de rêves, vous savez, dans notre tête qui meurent. Et puis, Dieu envoie un ange, Dieu prophétise que ce rêve se réalisera. Et il y a beaucoup de rêves comme ça qui sont là. Et puis, à ce moment-là, eh bien, à la même période, elle a été enceinte d'un fils et l'année prochaine, eh bien, tout comme le prophète lui avait dit, elle a eu un fils. Et quand le garçon était âgé de près de 10 ans, il était sur un terrain de jeu et sa tête a commencé à lui faire très mal. Et on l'a transporté à la maison et on l'a placé dans les bras de sa mère et il est décédé plus tard. Une histoire dure, hein. Vous pouvez vous imaginer eh bien, comment sa mère pouvait se sentir. Elle avait le cœur brisé, elle était dévastée par la douleur. C'était horrible, hein, parce que tu vois ton rêve, et puis, pof, 10 ans de bonheur, et puis ton enfant qui meurt dans tes bras. Alors, elle porta son fils dans la chambre d'Élisée et le plaça sur le lit d'Élisée. Pour la plupart des gens, ce serait la fin d'une histoire, mais pas pour cette femme, hein. Elle a demandé un âne, elle a dit « je vais voir le prophète Élisée ». Elle a dit à son assistant de rouler très vite pendant la nuit, et quand Élisée a vu la poussière tourbillonnante, il a remarqué que c'était son amie, hein, cette femme, qui venait à sa rencontre. Et, alors Élisée dit à son assistant Géasi « allez, savoir ce qui ne va pas hein, ». Et Géasi, le serviteur d'Élisée, court devant près de la femme, hein, et il arrête et dit « Pourquoi venez-vous à l'improviste dans une telle précipitation? Tout va bien pour vous, il n'y a rien de mal, rien n'est arrivé dans votre vie, votre mari se porte bien, votre fils. » Et elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Vous allez voir, c'est quand même surprenant. Je crois qu'elle lui a dit « Il va bien ». Elle n'a pas dit elle n'a pas ouvert son cœur, elle dit « si je vis une catastrophe en ce moment, c'est horrible hein. ». Vous imaginez cette femme, eh bien, elle venait de perdre son enfant, elle était en proie à une douleur terrible, hein. Les entrailles, tout le ventre qui devait se nouer, elle devait être remplie de toutes les pensées négatives qu'il puisse y avoir sur la terre, hein, et au lieu de dire au secours, à l'aide, mon fils est mort. Elle dit, non, il va bien. Il va bien. Imaginez, hein, imaginez le nombre de fois où nous sommes confrontés à des difficultés et que quelqu'un nous demande comment ça va. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous, la première des choses qu'on fait, c'est de dire, mais tu t'imagines ce qui m'est arrivé ce matin? Je suis passé par là, c'était horrible. Hein, tu t'imagines, là, j'ai eu des pensées, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Tu t'imagines, ça ne va pas, etc. La première des choses, nous, pour des petits bobos, hein, pour des petits bobos, on est là en train de cracher tout ce qu'on vit, alors qu'elle, elle perd son enfant, et ce qu'elle dit à un homme de Dieu, elle lui dit, il va bien. Il va bien. Hein, et vous imaginez, hein, cette situation. Vous, quand vous allez voir un médecin ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez dire, ben, les analyses sont mauvaises. Et elle était là, non. Elle était là. Verset 30, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Voilà. Alors, à un moment donné, eh bien, la mère lui raconte, hein, à Élisée, hein, elle lui dit voilà, que son fils était mort. Et là, qu'est-ce que fait Élisée? Il dit, l'Éternel est vivant. Il lui dit, il ne parle même pas de mort. Il ne dit rien. Elle lui dit, mon fils est mort, il n'en parle pas. Et tout va bien. Et vous allez dire, c'est insensé. Oh, franchement, on revient sur terre. Les paroles de foi, le langage de Dieu. Comme c'est difficile, la pensée de Dieu. Vous voyez combien on est aux antipodes, hein? Parce que moi, j'ai envie d'avoir la pensée de cette femme. Moi, j'aimerais, je dis, cette femme-là, eh bien, elle avait une maturité spirituelle extraordinaire. Je ne suis pas capable d'avoir ces pensées. Moi, je me serais effondré, certainement. Moi, j'aurais été en pleurs. Mais elle, elle a choisi, eh bien, la pensée spirituelle. Elle a choisi la voix de Dieu. Elle a entendu la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Élisée n'est pas rentré dans le jeu du catastrophisme. Il n'a pas dit, comme beaucoup d'amis, « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive ? Hein, oh, je suis désolé pour toi, c'est horrible, etc. Je comprends ta douleur. Je veux prier pour que Dieu te vienne en aide pour te... Hein? » Non. Non. Il a dit, ben, on va aller. Hein? Dieu est grand. Dieu est grand. On a un grand Dieu. Ils se sont appuyés dans un moment catastrophique. Ils se sont appuyés sur Dieu. Ils se sont approchés de la parole de Dieu. Et donc, Gehazi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Ils sont retournés à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur un d'eux. Sur eux deux, pardon, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Gehazi, son serviteur, et dit, appelle cette Sunamite. Il l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre Dieu, contre terre, et elle prit son fils et sortit. Voilà, c'est une histoire extraordinaire. Vous voyez, on a le Dieu de l'extraordinaire. Hein, on a le Dieu, eh bien, qui n'est pas le Dieu de l'inquiétude en tous sens. On a, eh bien, cette parole, la puissance de la parole, la puissance de la parole de foi. Cette parole, eh bien, qui a permis de ressusciter les morts. Vous imaginez un petit peu la puissance de Dieu, cette puissance de résurrection, cette puissance qui a permis à Jésus à un moment donné de ressusciter Lazare de la mort et de montrer toute la gloire de Dieu se manifester. Cette voix, eh bien, qui était là, vous savez cette voix, moi combien de fois dans mon ministère, eh bien, j'ai eu envie. Vous savez, dans le ministère, on est tétanisé parce qu'on se dit, mais à la fois, on se dit, oui, mais la voix de la raison, si la personne elle est morte, qui suis-je moi pour ressusciter quelqu'un? Mais on ne prend pas conscience que c'est Dieu qui agit. Mais j'aimerais tellement avoir eh bien, cette pensée de cette femme qui dit et d'Élisée qui ne cherche pas, qui ne doute pas de la puissance de Dieu et qui sait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Ah, nous sommes là. Ah, tu t'imagines si au travers de mon ministère, eh bien, il y a une résurrection, il y aura des gens qui vont venir, on va m'acclamer. On regarde à la gloire de l'homme, mais on ne regarde pas la pensée de Dieu, on ne regarde pas la puissance de Dieu. Hein, on ne regarde pas à ce que Dieu fait, mais la gloire de Dieu revient à Dieu. Hein, et ce n'est pas à l'homme. Et ne vous méprenez pas, parce que souvent les chrétiens, ils auront dit « Bravo Élisée! Alléluia Élisée! C'est Élisée! Élisée, eh bien, il a ressuscité !» Mais ce n'est pas Élisée, c'est Dieu qui a ressuscité. Et ne donne pas gloire à l'homme, mais donne gloire à Dieu. Ne transpose pas les situations. Vous savez, nous sommes des moutons. On aime bien, eh bien, glorifier l'homme. On aime bien, eh bien, donner toute la gloire à l'homme. Mais ne te trompe pas de personne. Celui qui guérit, celui qui ressuscite les morts, c'est Dieu et lui seul. Et là, on voit le travail de Dieu. On voit la puissance de Dieu. Hein, on voit la puissance de la parole de foi. Cette parole, eh bien, qui ressuscite. Cette parole qui guérit. Cette parole, vous savez, je dirais que il y a un mot-clé, ne parlez pas de la taille de vos problèmes, mais parlez de la taille de votre Dieu. Ne parlez pas sans cesse des grandes difficultés eh bien, par lesquelles vous passez aujourd'hui, mais parlez de la grandeur de Dieu. Et vous verrez que les problèmes pour Dieu sont tout petits. Hein. Vos problèmes, chacun de vos problèmes, eh bien, ils sont tout petits. On ne les voit même pas. Même au microscope, on n'arrive pas à les voir. Tellement ils sont petits parce que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui dit et la chose arrive, un Dieu qui a créé eh bien, la terre entière simplement par le pouvoir de sa parole. Un Dieu eh bien, qui a mis des luminaires qui sont des astres pour chauffer la terre et pour apporter eh bien, la lumière. Donc on voit bien que ce que nous vivons, eh bien, que la taille de nos problèmes est bien petit par rapport à la grandeur de Dieu. Et Dieu peut transformer toutes les situations. Il peut vous ouvrir eh bien, de nouveaux chemins. Il peut attirer des personnes autour de vous qui ont foi en vous, qui vont vous bénir, qui vont vous apporter d'aller dans des chemins encore, des paliers supérieurs, des niveaux supérieurs. Dieu est un Dieu de victoire. Dieu est un Dieu de guérison. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu qui vous soutient, qui vous épaule. Il n'a pas le bras court. Il peut, aujourd'hui, vous regardez l'Église eh bien, au travers de vos yeux. Mais sachez que l'Église de Jésus-Christ, eh bien, c'est le monde entier. Dieu est capable d'amener des hommes et des femmes du monde entier pour le servir dans ce lieu même et pour vous aider dans votre tâche. C'est ça le Dieu. Et nous devons, nous tenir par la main et au lieu de baisser la tête et de nous considérer comme des misérables, eh bien nous devrions nous tenir la main et chanter la louange de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, que le feu de Dieu descende dans ce lieu et qu'il embrase nos vies et que nos vies eh bien, soient la gloire du Seigneur. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça l'Église de Jésus-Christ, c'est ça l'Évangile de Jésus. Hein, il libère eh bien, toutes les promesses qu'il vous a faites et il vous les donne de les vivre et de les mettre en application. Et nous devons le déclarer. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'obstacle qui soit que Dieu ne peut abattre. Ces murs de Jéricho, ils paraissaient énormes, mais simplement, eh bien, au son de la louange à Dieu, au son des trompettes de l'Éternel, eh bien, ces murs se sont écroulés et Dieu a livré, eh bien, tous ces hommes aux mains de Josué. Et c'est ce qu'il veut faire dans votre vie. Il veut vous donner une pleine victoire. Ne soyez pas sans cesse en train de vous plaindre. Ne soyez pas dans le découragement. Ne regardez pas toujours le côté négatif, mais regardez la grandeur de Dieu. Regardez la puissance de Dieu. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui fait des choses étonnantes, un Dieu qui veut, eh bien, que vous soyez à la tête et non pas à la queue. Un Dieu qui vous donne de voir sa victoire. Alors prophétisez, je prophétise sur cette église, eh bien, qu'il y ait une multitude d'âmes qui viennent, que cette église, eh bien, soit trop petite et que nous soyons obligés de changer de lieu afin que les âmes se tournent vers Dieu. Je prophétise sur cette église, eh bien, toutes les bénédictions de Dieu, qu'elles soient en abondance et que toutes les familles, toutes les vies, eh bien, qui soient là, reçoivent les bénédictions de Dieu, qui puissent aller dans la table du roi, qui peut manger avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et que chaque jour, eh bien, soit une bénédiction, et que chacun soit dans les champs et l'allégresse, que nous rejetons dans le nom de Jésus toutes les murmures, toutes les plaintes, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, que l'esprit de l'homme disparaisse et que la grandeur de Dieu, eh bien, se réveille maintenant, au nom de Jésus. Amen.